Dès 8h20, nous retrouvons Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 à 2014. Il est rejoint par le chef cuisinier Thierry Marx. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Je vous ai invité parce que vous présentez l'émission sur la chaîne 13e rue, Un chef en prison. Et puis vous venez de signer un polar, On ne meurt pas la bouche pleine, un polar co-écrit avec Odile Bouy, publié aux éditions Plomb. Vous connaissez bien la situation des prisons. Peut-être une réaction à ce que vient de dire Ludovic Piétenu.
Oui, une réaction simple, c'est-à-dire qu'on met toujours le prix, le montant des choses, et je crois que ça a un coût social, la détention, et il faut l'accepter. Donc il faut répartir un petit peu le coût de tout ça pour essayer d'avoir une détention qui soit un peu plus humaine, et en même temps d'anticiper un petit peu les choses et de fabriquer en détention le meilleur voisin possible. Mais tout ça, ça passe par la formation professionnelle, ça passe pour des lieux de détention qui soient un peu plus viables que ceux que nous avons actuellement.
Alors vous allez nous parler de votre expérience auprès des détenus, de votre tour d'Europe, des prisons. Jean-Marie Delarue, une réaction également à ce que vient de dire Ludovic Piétenu sur la manière dont le politique finalement n'a pas véritablement la main sur la pénitentiaire, comme on dit.
Oui, la pénitentiaire a beaucoup d'autonomie, mais ceci étant, elle obéit aux ordres quand même. Donc je crois que les gardes des Sceaux sont responsables de ce qui se passe dans les prisons. Mais je crois, comme moi je vais faire chorus avec ce que vient de dire Thierry Marx, je crois qu'il faut... Bien sûr que la prison a changé depuis 50 ans, bien sûr que les droits des détenus ont été accrus, sous l'influence d'ailleurs du droit européen, il faut pas l'oublier, pas du tout à notre initiative, mais je crois que les choses fondamentales en prison restent les mêmes. Je crois qu'on conçoit la détention comme une discipline, et je crois que ce qui compte, c'est en effet faire en sorte que le détenu soit responsable de lui-même et de ce qu'il va devenir à sa sortie. Et pour ça, il faut comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lui donner une responsabilité de lui qu'il n'a pas aujourd'hui.
Alors, par exemple, en lui apprenant un métier qu'il pourra exercer à sa sortie. Thierry Marx, on va entendre un extrait de cette émission qui s'intitule donc Un chef en prison et qui est diffusée sur 13e rue.
Je m'appelle Thierry Marx, je suis un chef étoilé. Dans mon restaurant dînent les grands de ce monde. Mais je n'ai pas toujours connu les palaces. J'ai grandi dans une cité, à Ménilmontant, dans le Paris popu des années 70. J'aurais pu mal tourner, mais la vie m'a offert une deuxième chance. Je n'ai jamais oublié. Depuis des années, je donne des cours de cuisine à des détenus. Pas pour qu'ils deviennent de grands chefs, mais pour qu'ils aient un projet. Après, dehors.
Ça se passe comment, ces cours, Thierry Marx ?
C'est simple, on revoit les bases de la gastronomie française, de la cuisine française, le geste de base, la posture, et puis on va étudier les, en gros, 90 recettes référentes pour obtenir le CAP de cuisinier. Donc l'idée, c'est surtout de travailler sur le projet, le projet pour après la détention, et de commencer à anticiper un petit peu les choses.
Quels enseignements vous en tirez sur l'état des prisons françaises ?
Beaucoup. Je crois que la formation professionnelle a une vraie carte à jouer en détention, que ce soit pour les détenus, que aussi pour les personnels. Un personnel de détention, c'est quelqu'un qui vit sous pression en permanence. Il vit au contact de gens qui vont pas forcément très très bien. Donc il a besoin lui aussi de se former continuellement pour traverser ce métier du mieux possible. Le détenu, c'est la même chose, il faut qu'il construise un projet. Et ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui en détention, c'est ce qu'il faut concevoir. Comment on reconstruit la ligne de confiance pour faire le meilleur voisin possible et de ne pas faire focus sur le temps de la peine, mais plutôt sur le temps qu'on va mettre à reconstruire un lien de confiance qui est invisible entre un détenu, une administration et un État. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans la Norvège, le Danemark, la Finlande, où on construit au fur et à mesure des modèles de détention. Une détention très dure, 23 heures de cellules par jour, et puis on aménage la peine au fur et à mesure de la mise en confiance entre le détenu et l'administration.
Mais alors justement, si vous comparez les différents systèmes pénitentiaires, Thierry Marx, qu'est-ce que vous diriez sur le système français dont on voit aujourd'hui qu'il est en crise, les surveillants de prison sont aujourd'hui en colère, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est 30 années de compression, je dirais. Donc, c'est un peu, vous savez, vous avez le système dans les quartiers, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Il faut déjà remonter aux pattes dans le passé, comment tout ça s'est déconstruit et comment on peut reconstruire quelque chose. L'idée de reconstruire quelque chose aujourd'hui, c'est effectivement de remettre du projet, de la formation et puis d'arrêter de faire focus sur le coût des choses. La détention a un coût social, on le sait. Est-ce qu'on peut la répartir sur plusieurs ministères? Je ne sais pas, je n'ai pas cette compétence, mais je crois que oui. Je crois qu'il y a des personnes qui sont en détention qui ont besoin d'un véritable accompagnement social, médical, et puis un accompagnement de formation professionnelle pour construire l'avenir.
Jean-Marie Delarue, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que, au-delà même de ce que disait Thierry Marx, il faut lui rajouter ce mérite de redonner confiance aux personnes. Moi, j'ai vu un jour dans une prison des femmes à qui on donnait des cours de pâtisserie. Et pour elles, c'était l'occasion de faire des belles choses. Mmh. Et en plus de faire des gâteaux qu'elles donnaient après à leurs enfants au parloir. Et c'était une façon de se valoriser, elles qui étaient constamment dévalorisées. Donc c'est à partir de là, comme l'a dit Thierry Marx, on reconstruit une personne. Et je crois que la reconstruction d'une personne et la garantie qu'à la libération, ces personnes se comporteront bien. À l'inverse, l'infantilisation des personnes, la discipline conçue comme une fin en soi, aboutit à des enfants qui se comporteront mal. Et on sait que à la sortie de la prison française, les taux de récidive, notamment des petits délinquants, pas des grands criminels, contrairement à ce qu'on pense, mais des petits délinquants, sont considérables. Par conséquent, le système français, dans sa conception, n'est pas un bon système. Je rappelle que il y a 25% à peu près, un peu plus, 27% des détenus qui travaillent en prison, alors que la quasi-totalité d'entre eux ne demandent qu'à travailler. Bon, donc nous pêchons par des défauts structurels depuis bien longtemps auxquels il faudrait enfin porter remède.
Les détenus à qui vous donnez des cours, Thierry Marx, vous savez ce qu'ils ont fait pour se retrouver en prison?
J'évite. Le passé des gens ne m'intéresse pas. Je leur dis tout de suite. Comme ça, c'est clair. Mmh. Et ils n'ont rien à me vendre. J'ai rien à leur vendre. J'essaye de montrer que quand il y a un projet dans la vie, on peut redresser la tête et anticiper la sortie. Et effectivement, comme ce qui vient d'être dit, la sortie, c'est qui vous attend? Qui vous attend? S'il y a un vrai projet sain que vous avez travaillé en amont, ça peut fonctionner. Si personne ne vous attend à la sortie, vous allez retomber bien souvent dans les mêmes écueils.
Et alors vous, justement, qu'est-ce qui vous a empêché de tomber dans ces écueils-là? Vous avez écrit un peu là, On ne meurt pas la bouche pleine, il est publié aux éditions Plomb. Vous êtes intéressé par ce milieu-là. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe du côté de la cuisine ou du côté de la prison?
Moi, je suis né dans un quartier, dans des quartiers compliqués. Après, j'ai vécu Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Donc, des copains avec qui on avait fréquenté les mêmes bancs de l'école ont connu la détention. Et je me suis rendu compte assez vite que la vie était entre l'ordre et le désordre. Donc, si vous aviez un projet, vous redressiez la tête, vous regardiez devant vous. Si vous n'en aviez pas, c'était le risque de tomber dans le désordre ou trop dans l'ordre aussi. Et un jour de me dire, eh bien tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui ont connu cette notion de la détention et de m'apercevoir que les fragilités étaient toujours les mêmes. Le cadre de départ était un cadre compliqué et puis le manque de formation et surtout le manque de projet.
Mais parce qu'on dit souvent que la cuisine c'est aussi quand même une organisation assez peu pardonnante, on parle de brigade, oui. À chaque fois qu'on voit des reportages sur une cuisine, on a l'impression que c'est pas un lieu où on rigole beaucoup.
C'est un lieu de rigueur, d'engagement, de régularité. Mais alors après, les clichés et les mauvais clichés que nous diffusent des fois des programmes où on voit des chefs excessivement virulents et autoritaires, ça n'a pas de sens. Comme si on ramène ça à la détention. La détention hyper brutale et hyper sécurisée n'amène pas à de bons résultats. Il faut séquencer tout ça pour reconstruire les personnes. Et à chaque fois que je suis allé dans des centres de détention en Belgique, par exemple, parce qu'on peut beaucoup critiquer la France, mais il y a d'autres pays où c'est compliqué, où j'ai vu de l'hyper-détention, des gens allaient en fond de peine de façon très, très dure, et bien ça ne fonctionnait pas vraiment. Et puis des prisons où on faisait évoluer le détenu en fonction de la relation de confiance, et là on s'aperçoit que ça peut fonctionner.
Jean-Marie Delarue, c'est vrai, ailleurs ça peut être pire qu'en France en matière de prison?
Oui, sûrement, mais ailleurs ça peut être aussi beaucoup mieux. Moi, je voudrais revenir au conflit social actuel. Je crois vraiment qu'une des difficultés de la prison aujourd'hui en France, c'est que les syndicats pénitentiaires, et on peut les comprendre, demandent toujours plus de sécurité. et demander toujours plus de sécurité, c'est renforcer le modèle français dans ce qu'il a de plus négatif. Je crois qu'il faut, dans l'intérêt même des surveillants, comme le dit Thierry Marx à l'instant, renforcer un lien de confiance, construire les détenus comme des personnes responsables, et à ce moment-là, la sécurité reviendra dans les prisons. C'est pas en multipliant les mesures de force et de contrainte qu'on va renforcer la sécurité dans la prison. Et d'ailleurs, l'expérience le montre. Le nombre d'agressions, il a été rappelé ça dans le journal tout à l'heure, le nombre d'agressions contre les surveillants ne cesse de croître. Mmh. On oublie aussi que le nombre d'agressions entre les détenus ne cesse de croître, même si elles sont ces agressions beaucoup moins comptabilisées. Donc, il faut que dans ces rapports de force, on substitue des rapports de confiance. Et malheureusement, le conflit social est l'illustration de cette contradiction des pouvoirs publics. Est-ce que je choisis la solution de facilité qui est de mettre toujours plus de force dans les prisons, ou est-ce que j'essaye de changer de politique et de mettre un peu de la confiance là où elle doit être? Voilà, je crois, la question qui est posée au système carcéral français aujourd'hui.
Thierry Marx.
Tout à fait d'accord, c'est multifactoriel. J'ai visité récemment une prison à Milan, où il y a 1200 détenus, je crois, où il y a énormément de travail à faire. Il y a une ferme intégrée, il y a plusieurs différents, et il y a un énorme pôle théâtre, un énorme pôle hospitalier à l'intérieur du centre de détention, et les détenus doivent se comporter et doivent montrer qu'ils sont prêts à la réinsertion. Et en fonction de ça, eh bien, on ouvre ce fil de confiance au fur et à mesure. Et je crois que ça, ce serait des modèles dans lesquels on pourrait s'inspirer. Ce qui veut dire que nous devons avoir des personnels de surveillance, bien entendu, mais aussi des personnels extérieurs de formation professionnelle et d'éducation, parce que ça en fait partie.
Il y a d'autres prisons en Europe, dans le monde, où on apprend la cuisine aux détenus?
Il y a d'autres prisons en Europe où on apprend la cuisine aux détenus. Moi, j'ai fait la Norvège, le Danemark, la Finlande, où j'ai vu des modèles de détention, jusqu'à des prisons de semi-liberté, voire le détenu sort et entre en détention quasiment de lui-même pour aller au bout de sa peine, mais dans les meilleures conditions possibles.
Qu'est-ce qui est compliqué lorsqu'on apprend justement la gastronomie aux prisonniers? Qu'est-ce qui est compliqué, Thierry Marx? Qu'est-ce qui pose problème dans la transmission, dans ce que vous faites en prison?
C'est pas tellement différent avec l'extérieur. Il faut inspirer pour transmettre. Si vous inspirez, si vous êtes capable de faire la démonstration de ce que vous prétendez connaître, eh bien, c'est assez facile. Le détenu est assez observateur, il est même très observateur, donc il comprend que c'est le geste, le feu, le temps. Donc le geste, c'est la maîtrise du geste et de l'environnement de son poste de travail, la cuisson, et le bon timing pour faire les choses. Et ensuite, de faire naître la curiosité, de se dire, tiens, le filet de bœuf Wellington, voilà comment ça se fait, mais voilà pourquoi on l'a pensé comme ça, qui est Wellington, etc. Créer de la curiosité pour former.
Et puis, lorsqu'on évoque, Jean-Marie Delarue, la situation dans les prisons et l'augmentation considérable du nombre de détenus, puisque on est passé de 62 000 détenus en 2009 à 70 000 aujourd'hui, il y a un chiffre qui résume tout, c'est 1500 matelas au sol, ce qui signifie donc qu'il y a 1500 détenus qui aujourd'hui dorment en prison sans avoir de lit. Et là, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, reste à faire dans le domaine carcéral?
Moi, je crois vraiment que, en gros, faut te dire que depuis 2001, on a eu 1000 détenus de plus par an. C'est un peu schématique, mais en gros, c'est ça. Et donc, on ne peut pas séparer la politique pénitentiaire de la politique pénale. On ne peut pas séparer l'état des prisons des décisions que prennent les juges d'envoyer en prison. Ça n'est pas possible. Donc, je crois que il faut réfléchir à notre politique pénale. Qui doit-on aujourd'hui envoyer en prison et qui pourrait bénéficier de peines alternatives? Il ne s'agit pas de renoncer à la sanction sociale. Tout délit doit être puni. Il s'agit de savoir si la prison est le meilleur remède pour préparer une réinsertion future.
Alors, vous pensez à quoi? Parce que lorsqu'on prend les statistiques, les raisons pour lesquelles les gens sont emprisonnés, il y a trois gros délits qui justifient la présence en prison, sont les stupéfiants, les agressions sexuelles et les vols. Si on prend ces trois délits, on est quasiment à un peu moins de 60%, mais voilà déjà l'état des prisons pour les peines principales. Qu'est-ce que vous proposez dans ce dispositif-là? On parlait tout à l'heure des stupéfiants, et je vous disais que la législation sur les stupéfiants justifiait ce nombre très élevé, c'est-à-dire que si on est dealer de cannabis, alors peut-être pas la première fois, mais si on est repris ensuite, on termine en prison, et ça, eh ben, d'autres pays ont choisi une autre option.
Oui, moi je crois vraiment que il faut simplement que en dehors de la prison, on ait aussi un système judiciaire qui puisse suivre. Je rappelle que il y a plus de gens qui sont suivis par l'administration pénitentiaire, ce qu'on appelle les conseillers d'insertion et de probation, dehors que dedans. Il y a à peu près 170 000 personnes qui sont dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire suivis par des conseillers d'insertion et de probation. Donc le milieu ouvert, c'est-à-dire le suivi dehors, n'est pas en soi quelque chose d'un connu en France. Simplement, il faut faire en sorte qu'il soit plus efficace, que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ne soient pas débordés, comme on l'avait vu au moment de la triste affaire Meillon, de l'assassinat de cette malheureuse Laetitia. Il faut qu'on leur donne les moyens de suivre effectivement les gens. Et à ce moment-là, on pourra envisager d'autres peines que la prison. Pour quelque délit que ce soit, ça dépend de la personne. Ça, c'est au juge de l'apprécier. Et je crois qu'on est encore loin du compte, puisque le choix préférentiel, encore une fois, est non pas en nombre de peines, mais en choix ultime du juge, c'est la prison. Je crois simplement que dans cette question, dans notre pays, fait débat, il faut s'en rappeler, puisqu'au moment où Christiane Taubira a voulu faire une peine alternative qu'elle a appelée la contrainte pénale, on a eu des débats incroyables devant le Parlement pour savoir si cette peine, le principe de cette peine, était justifié ou pas. Donc, cette affaire fait débat dans l'opinion. Je crois qu'il faut avancer sur ce point.
Une réaction, Thierry Marx.
On parle beaucoup de détention, on parle beaucoup de personnes qui sont touchées par, le trafic de stupéfiants, mais vous voyez, quelque chose qui ne concerne pas forcément la détention directement, mais c'est la petite enfance et l'enfance. Donc il faut travailler et renforcer tout un tas de choses sur la petite enfance, l'adolescence, dans les quartiers. Parce que ce qu'il faut faire, c'est évidemment, on peut multiplier les arrestations et les places en détention, mais c'est ce qu'il faut surtout éviter, c'est que les gens puissent se retrouver un jour dans la situation d'aller en détention. Et ça, il y a un gros travail qui n'incombe pas à au ministère de la Justice, mais de travailler et travailler efficacement sur les quartiers.
Oui, parce que si le nombre de personnes incarcérées augmente, c'est aussi peut-être Jean-Marie Delarue, parce qu'il y a un certain nombre de choses en matière de prévention qui n'ont pas été faites, en France comme elles pourraient l'être. Les taux de détention sont très variables. On est, par exemple, en Allemagne, à un nombre bien inférieur. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous ?
Je crois qu'il faut savoir, sur les taux de détention, je parle de ce que vous venez de dire, qu'on est revenu au niveau où on était à la fin du 19e siècle, aujourd'hui. Alors qu'on avait baissé, sauf après les guerres, on avait baissé tout au long du 20e siècle. Donc on est revenu à peu près
20 000 détenus en 1957.
120 ans en arrière en termes de taux par rapport à l'ensemble de la population, de taux de détention. Donc c'est dire qu'il y a en effet un problème de fond. Alors, il n'y a pas... Il faut se rappeler que l'ensemble, l'immense majorité des détenus sont d'origine populaire. Donc, c'est une question sociale qui est posée. Je ne crois pas qu'on ait jamais réglé une question sociale par la seule répression. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de répression, je dis simplement qu'il faut la traiter aussi autrement. Donc, comme vient de le dire Thierry Marx, je crois qu'à une question sociale, il faut répondre avec des moyens sociaux. Je suis inquiet de voir aujourd'hui la dérive de quartiers entiers qui sont sans foi ni loi, c'est-à-dire où les dealers font la loi, où la police est impuissante à régler le trafic. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Il y a des gens qui sont désormais loin du travail depuis deux générations. Je pense au quartier nord de Marseille. Donc il faut faire très attention à ça. Et le gouvernement, enclin qu'il est à se polariser sur le court terme, c'est-à-dire sur les actes délictueux commis, ne voit pas ces évolutions de moyen terme qui sont extrêmement inquiétantes.
Thierry Marx. Ce qui est très juste, c'est travaillons sur la petite enfance. Moi, je vais vous citer quelques quartiers où l'abandon de scolarité est à 12 ans.
Voilà,
ça c'est la réalité, je pourrais vous en citer plein, Seine-Saint-Denis, nord de Marseille, 12 ans. Donc je me retrouve par moment en détention avec des gens qui sont illettrés, qui n'ont comme repère aucun repère de formation professionnelle, aucun repère de culture générale. Donc il faut travailler là-dessus. Donc ça veut dire que si on veut travailler, effectivement, je le crois, comme ce qui vient d'être évoqué, qu'il faut travailler sur l'amont, et largement sur l'amont, sur l'aide à la scolarité, sur l'aide à la petite enfance, sur l'aide à l'adolescence, et de permettre de remettre un cadre éducationnel dans certains lieux.
Puisqu'on a un chef ici, vous, en l'occurrence Thierry Marx, on parle beaucoup de la condition dans les prisons. La nourriture en prison, ça donne quoi ?
C'est pas terrible, c'est en fonction. C'est, vous savez, la prison est un juste reflet de ce que vous vivez dans la société extérieure. Donc vous avez de l'argent, vous mangez mieux.
Vous Pourquoi en parce que pas. Vous cantinez, bah, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'acheter des produits.
Et voilà. Alors par contre, ce qui est important, on mange pas très bien en détention et il y a un coût matière première qui est très faible. Mais effectivement, les détenus s'octroient quelques facilités pour ceux qui en ont les moyens de cantiner. Mais par contre, ce qui est fort en détention, c'est le temps du repas. C'est un temps de partage, c'est un temps de convivialité, c'est un temps aussi qui marque des fois le pouvoir de l'autre. Il faut y faire un petit peu attention. Mais effectivement, c'est un temps extrêmement important vu que le temps à l'extérieur et le temps à l'intérieur, et je veux dire quelque chose qui va vous faire rire, mais qui n'est pas forcément le même. Quand vous êtes condamné à 10, 15, 20 ans de détention, pour des faits extrêmement lourds des fois, eh bien, vous avez ce repère de l'heure du repas. Et puis, c'est plaisir de manger, bien-être et santé. Le détenu, quand il commence à s'instruire, s'aperçoit que s'il se nourrit mieux, il préservera aussi sa santé. C'est quand même pas très facile de se faire soigner quand on est en détention.
Jean-Marie Delarue, un mot de conclusion. La cuisine, c'est une façon aussi de reprendre la main. De redevenir soi-même, de reprendre l'initiative. Et donc je crois qu'en effet, comme il vient d'être dit, faire la cuisine en prison, indépendamment même de toute gastronomie, que Thierry Marx me pardonne, c'est une façon d'être soi. Bon. Donc je crois que la gastronomie est un point important. Moi, je voudrais dire en conclusion qu'il faut, en effet, au-delà du conflit actuel, on doit saisir les vrais enjeux. Il faut évidemment prendre garde à respecter la sécurité des personnels, ça va de soi. Mais il faut aussi penser qu'on ne va pas redonner cette sécurité sans modifier le régime carcéral tel qu'il est conçu aujourd'hui.
8h42 sur France Culture. Je voulais profiter de votre présence, Thierry Marx, puisque on a appris ce week-end la mort de Paul Bocuse. Monsieur Paul, il avait 91 ans, on écoute sa voix.
César m'a fait une sculpture assez extraordinaire. Il a ramassé des fourchettes, des cuillères, et il m'a demandé des choses qui jalonnaient ma vie. Je lui ai donné une médaille de lion, une médaille que le général de Gaulle m'avait donnée, qui a été sciée. Il y a une cafetière, un Mickey qui représente un peu nos affaires aux États-Unis. Une médaille de tradition et qualité, une médaille du président Valéry Giscard d'Estaing, et là, il a mis ma médaille de meilleur ouvrier de France, alors vous voyez, il l'a compressée, et bien sûr, il a signé son œuvre de César, et donc c'est devenu le Bocuse d'or.
La voix de Paul Bocuse disparue ce week-end. Quel souvenir vous conservez de Paul Bocuse, Thierry Marx?
Le souvenir de ce qu'il nous a enseigné, l'économie de la qualité, l'artisanat français, une référence planétaire. Mmh. Et puis, la grande force de Paul Bocuse, et ce qui va sûrement nous manquer de lui, c'est cette capacité à nous rassembler et d'accepter qu'il y ait de la diversité dans la cuisine.
Ça, c'est bien.
Ben, Paul Bocuse, il acceptait toutes les cuisines du fait qu'elle soit bonne. Il disait, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Choisissons la bonne. Mais il acceptait qu'il y ait des gens qui aient un regard différent. Il a fait en sorte qu'il y ait des cuisiniers auteurs, qu'il y ait des cuisiniers chefs d'entreprise. Il a initié ça et il avait cette aura qui permettait de rassembler toute une profession. Et ça, j'espère qu'on saura, nous, notre génération et les générations à venir, l'entretenir, de pas avoir ce souci d'ego permanent, mais être capable de dire, à un moment donné, les uns avec les autres et pas les uns contre les autres.
Qu'est-ce qu'on lui doit à Paul Bocuse en matière de recettes? Qu'est-ce qui devra rester plats qu'il a créés?
Avec Paul Bocuse, avec le chef Paul, on est au-delà de la cuisine, on est au-delà de la recette, on est dans la gastronomie. La gastronomie, c'est une planète, ce sont des petits producteurs, c'est une agriculture, c'est une économie de la santé, c'est une économie de l'artisanat, des métiers de bouche. S'il y a un plus beau symbole de Paul Bocuse, c'est peut-être le marché de Lyon. Parce que là, il rassemblait l'ensemble des métiers de bouche et nous montrait qu'il fallait innover, il fallait être vigilant à la qualité et qu'il y avait une vraie économie de la qualité dans les métiers de bouche et qu'on était capable avec ça, ce qui a été d'affronter toutes les concurrences.
Innover, mais il aimait bien les plats de copains, je crois qu'il aimait bien par exemple les tomates farcies.
Oui, mais
une recette que vous connaissez bien.
Bien sûr, il référençait une cuisine qui lui plaisait beaucoup, liée à son terroir, à son écosystème, mais il qu'il venait voir, je peux vous dire que Paul Bocuse, dès qu'il y avait une nouveauté quelque part, il était le premier à la visiter.
C'est quoi le secret des tomates farcies de Paul Bocuse ?
Un jeu de texture et de température et une juste cuisson. Mais et un hachage de viande extraordinaire.
C'est pour ça que c'est compliqué les livres de cuisine, parce que non, mais c'est encore plus
compliqué.
Vous savez, c'est
une recette 80-20, 80% de bœuf, 20% de porc, une belle tomate, un cœur de bœuf, légèrement cuite au four, une farce légèrement assaisonnée avec un petit peu d'oignon tombé, et puis on passait ça au four, et le jus de cuisson était aussi bon que la tomate. Jeu de texture et de température. Paul Bocuse, vraiment, on l'aura en mémoire encore pendant des décennies.
Merci Thierry Marx, merci Jean-Marie Delarue d'avoir été avec nous ce matin. Thierry Marx, je rappelle non seulement votre émission Un chef en prison sur 13e rue, mais aussi votre polar On ne meurt pas la bouche pleine, un polar publié aux éditions Plomb, preuve que les cuisiniers peuvent cuisiner d'autres choses que les tomates farcies.